Bonjour Sébastien.
Bonjour Marc, bonjour à tous. À la une ce matin, des milliers de documents déclassifiés dans la tentaculaire affaire Kennedy. 54 ans après la mort de JFK, les archives nationales vont rendre public aujourd'hui 3000 documents, mais sans doute pas les plus sensibles, une mine d'or en particulier pour les artistes, on en reparle dans un instant. Un collectif d'entreprises demande à Bercy de récupérer son argent. Une trentaine de sociétés déposent plainte afin que l'État les rembourse des taxes qu'il a indûment perçues depuis 4 ans. Emmanuel Macron attendu au tournant en Guyane, une région encore marquée par le mouvement social il y a 6 mois. Visite de 3 jours qui commence aujourd'hui à 8h20. Marc, question sur l'hôpital. L'hôpital peut-il survivre au cours d'économie à répétition? Vous recevez Martin Hirsch.
Oui, il dirige le plus grand centre hospitalier d'Europe, l'APHP, les hôpitaux de Paris. 100 000 professionnels de santé. Il publie un livre, plaidoyer pour l'hôpital, mais dans lequel il recommande également plusieurs mesures choc pour le sauver. Vos questions sur l'hôpital, sur l'accueil, sur les urgences, sur plus généralement la question de la santé en France. 01 45 24 7000.
Au programme également, un collectif de femmes qui prennent la défense de Pierre Jox, accusé d'agression sexuelle. Alain Juppé, furieux contre les autocollants anti-parisiens dans sa ville de Bordeaux. Et un dernier hommage à l'un des 3 boss du rock'n'roll, Fats Domino, mort hier à 89 ans. La CIA aurait-elle pu empêcher l'assassinat de Kennedy? La mafia au Cuba était-elle à la manœuvre? Des questions obsédantes depuis 1963. Pas sûr que l'on connaisse la réponse un jour. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le site des archives américaines devrait être littéralement pris d'assaut aujourd'hui par les complotistes de tout poil, mais aussi par les historiens. C'est aujourd'hui en effet que doivent être déclassifiés des milliers de documents secrets sur l'assassinat de JFK par Lee Harvey Oswald. 3000 documents des services de renseignement, une promesse faite par Donald Trump le week-end dernier. Il y a peu de chances toutefois que les archives les plus sensibles soient révélées. La CIA s'y oppose pour des questions de sécurité nationale, mais peu importe, pour les passionnés de cette histoire tragique et notamment pour les cinéastes et les écrivains, la mort de Kennedy restera, quoi qu'il en soit, une source inépuisable d'inspiration. Le reportage de Jacqueline Petrose.
À ton avis, qui a tué Kennedy?
La majorité des gens croient que c'est Lee Harvey Oswald.
Comme ici dans la série 29-11-63, comme dans le film JFK d'Oliver Stone.
Why was Kennedy killed? Who benefited?
Comme dans des dizaines de documentaires, des centaines de livres, la question revient en boucle avec toutes les versions possibles.
Apparemment, il complotait avec la mafia, la CIA, le FBI, les Russes.
Alors pourquoi toujours autant de passion? Pour le journaliste Philippe Labro, ce jour-là, Kennedy est devenu un héros antique.
Il y a quelque chose de romanesque. S'il n'avait pas été assassiné, il serait rentré dans l'histoire comme un président comme un autre. Là, il rentre comme un héros tragique, foudroyé. 54 ans plus tard, ça fait effectivement fantasmer.
Que peut-on encore apprendre? L'historien Thierry Lenz est dubitatif.
Les enquêtes officielles qui ont été menées, la commission Warren, mais surtout l'enquête du Congrès à la fin des années 70, ont déjà apporté un certain nombre d'éléments qui font douter de la sincérité de la version officielle de 1963-64.
En tout cas, pour Philippe Labro, il est incontestable que la CIA n'en sortira pas blanchie.
On peut apprendre un peu plus sur soit l'incompétence, soit au contraire la duplicité totale de la CIA.
Certains documents resteront encore sous scellé, et c'est sur eux qu'écrivains et cinéastes continueront de toute façon de fantasmer.
Jacqueline Petrose, l'assassinat de Kennedy qui a aussi marqué la pop culture américaine à tout jamais. Un dossier à retrouver sur notre site franceinter.fr.
8h04, là ça n'a rien d'un complot. L'État français doit beaucoup, beaucoup d'argent à certaines entreprises.
Oui, 10 milliards d'euros. On parle ici de la taxe de 3% sur les dividendes des sociétés. Une taxe prélevée sur les entreprises depuis 4 ans, mais invalidée récemment par le Conseil constitutionnel. Bercy va donc devoir rembourser ces montants indûment prélevés et plus vite que prévu, car des entreprises commencent à s'impatienter. Une trentaine d'entreprises du sud-ouest de la France ont décidé en effet d'attaquer l'État au pénal pour concussion. Les explications de Maxime Deps.
La concussion est un délit méconnu. Il est invoqué lorsqu'une personne dépositaire de l'autorité publique exige une somme qu'elle sait ne pas devoir percevoir. C'est exactement ce qui se serait passé avec la taxe sur les dividendes.
Pour faire simple, pendant longtemps, on a appelé quelque chose d'irrégulier que les entreprises ont payé et l'État était au courant.
Marc Rouxel représente les entreprises à l'origine de la plainte. Cet avocat dénonce les agissements de l'administration. En 2016, alors même que le Conseil d'État avait déjà alerté sur la fragilité du dispositif, les agents des impôts auraient fait la sourde oreille.
On a voulu se presser à vouloir envisagé des contrôles fiscaux sur la contribution additionnelle, alors même qu'on savait pertinemment que c'était illégal.
En déposant plainte aujourd'hui, cet avocat espère notamment pousser l'État à rembourser alors même que celui-ci semble vouloir jouer la montre.
Souvent, on jette dans l'arène les gens qui ne payent pas leurs impôts ou ceux qui fraudent fiscalement. Là, on ne devrait pas le faire parce que c'est l'État qui est aux manettes. C'est purement inadmissible.
Surtout pour Maître Rouxel, l'État chercherait aussi à minimiser la somme à rendre. Pour lui, le montant à rembourser pourrait être bien supérieur aux 10 milliards annoncés.
Maxime Deps, c'était l'article le plus controversé. La hausse de la CSG a été votée cette nuit à l'Assemblée nationale. Une mesure de solidarité intergénérationnelle pour les députés d'En Marche. Une injustice faite aux retraités pour l'opposition. Les comptes de l'assurance chômage vont s'améliorer, mais plus lentement que prévu. L'UNEDIC sort du rouge et du déficit chronique progressivement. Toutefois, cette réduction du déficit mettra plus de temps que ce qui était attendu. Les dernières prévisions tablent sur un trou de 3,8 milliards d'euros cette année, 200 millions de plus que prévu.
8h06 sur France Inter, la suite du journal. Sébastien Logeni, Emmanuel Macron attendu de pied ferme en Guyane aujourd'hui.
Une visite de 3 jours en effet sous tension. La Guyane est encore sous le coup du conflit social du printemps dernier. L'ancien gouvernement a promis plus d'1 milliard d'euros d'aide, mais chez les habitants, la colère et la frustration restent entières. Depuis 6 mois, la région est au point mort. Louise Baudet.
Emmanuel Macron attendu au tournant.
Macron pas pensé qui Macron qui arrivait et puis Macron qui a pâti.
6 mois après le mouvement social, un plan d'urgence et des engagements pris.
Rien n'a changé.
On ne voit rien venir.
Rien n'a changé depuis.
C'est pareil, rien n'a changé, rien n'évolue.
Première urgence, la sécurité.
Moi-même j'ai été braquée, ma mère a été braquée, elle est quand même personne âgée. On vit dans un climat d'insécurité permanent, quoi.
10 fois plus d'homicides qu'en métropole et un retard de développement dans tous les domaines.
La santé, l'éducation, tout. 40 ans de retard, on ne peut pas le rattraper en 1 ou 2 jours.
Près d'un jeune sur deux au chômage, l'orpaillage clandestin qui fait des ravages et une vague de migrants sans précédent.
La Guyane, quand on dit c'est une terre d'accueil, mais aujourd'hui je dis que ça suffit, on arrête, ce n'est pas vrai. Parce que le propre Guyanais qui vit au sein de ce territoire, il en souffre.
L'exaspération, le sentiment d'abandon et un thermomètre, les urnes.
Je ne vote pas pour les présidentielles, je ne vote que pour les élections locales. Même voter blanc, il ne fallait pas le faire, il fallait s'abstenir, point barre.
2 Guyanais sur 3 se sont abstenus au premier tour de la présidentielle, où Emmanuel Macron est arrivé 3e derrière Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen.
Louise Baudet, une manifestation du collectif pour la Guyane d'école, est prévue dès aujourd'hui. Et les maires guyanais, eux, refusent à ce stade de rencontrer le président. Autre chantier pour Emmanuel Macron, un chantier bien moins explosif. Celui-là, un léger remaniement ministériel en perspective. C'est la conséquence de la nomination du porte-parole du gouvernement Christophe Castaner au poste de leader de la République En Marche. Une désignation très verticale, élyséenne à 100%. Un choix accueilli plutôt favorablement dans les rangs des députés et des militants d'En Marche, même si on s'inquiète chez certains d'un risque de caporalisation du parti. Victoire Fort.
Au Palais Bourbon, cela ne fait aucun doute. Christophe Castaner est l'homme de la situation. Jacques Savatier, néo-député de la Vienne.
C'est quelqu'un de très utile à notre groupe dans cette fonction d'interface entre le mouvement, le Parlement et le gouvernement. Je pense qu'il s'engagera de façon très volontaire dans cette nouvelle mission qui lui a été confiée. Et je crois qu'il aura la confiance de mes collègues.
Du côté des militants et tous ces comités de marcheurs, il y a ceux comme Luc Domange, fier de voir à la tête de son mouvement un homme politique au langage différent.
Il parle comme nous tous, on a un réel enthousiasme. Il ne juge pas a priori ceux qui sont d'idées différentes, il est ouvert, mais il fait en sorte de rassembler. Et c'est ce que l'on souhaite à En Marche.
Et puis, des plus sceptiques quant au mode de désignation. Jennifer Pelage, qui tractait encore ce week-end pour le mouvement.
On a l'impression que les décisions sont prises d'en haut. Pourquoi pas faire un vote avec plusieurs types de profils? On a l'impression qu'on fait le choix à notre place. C'est pas comme ça qu'ils nous avaient présenté les choses.
Dans les faits, Christophe Castaner doit encore réunir quelques parrainages avant de se faire élire par le Conseil national de la République En Marche. Une formalité.
Victoire Fort, c'est une initiative qui, dans le contexte actuel, est assez rare pour être signalée, alors que depuis près de 3 semaines, les témoignages de harcèlement sexuel se comptent par centaines de milliers. Une vingtaine de femmes prennent aujourd'hui, dans une lettre ouverte, la défense d'un homme, l'ancien ministre socialiste Pierre Joxe, accusé ces derniers jours d'agression sexuelle par l'écrivaine Ariane Fornia, la fille d'Éric Besson. Une agression à laquelle ne croient pas du tout les ex-collaboratrices de l'homme politique. Florence Baudet.
Certaines connaissent Pierre Joxe depuis 50 ans. Elles ont travaillé avec lui au ministère de l'Intérieur, à la Défense, à la Cour des Comptes, au Conseil constitutionnel et toutes tombent des nues. Colette Popard, par exemple, adjointe au maire de Dijon, elle a milité au PS durant des années aux côtés de Pierre Joxe et jamais, dit-elle, aucun dérapage.
Moi, je vous parle d'un homme que je connais, avec lequel j'ai préparé des congrès, avec lequel j'ai préparé des réunions avec d'autres jeunes femmes. Je n'ai jamais vu un geste déplacé, un regard déplacé, une parole déplacée chez cet homme-là. Jamais.
Les signataires se disent blessés qu'un homme aussi respectueux des femmes, rigoureux, intègre, soit ainsi mis en cause. Mais alors pourquoi ces accusations? Et s'il y avait eu méprise, une erreur de personne, s'interroge Anis Nanouch-Verber.
Elle ne le connaissait pas, elle ne savait pas qui était à côté d'elle. Cette jeune femme a demandé à l'entracte, à un autre moment, à quelqu'un, en désignant, on peut penser qu'ils se sont trompés de personne. Et accuser quelqu'un sans s'assurer de la réalité des choses, moi je trouve que c'est gravissime.
Les femmes de ce collectif demandent que l'honneur de Pierre Joxe lui soit rendu. Elles lui renouvellent, sans réserve, écrivent-elles, leur confiance.
Florence Baudet de France Bleu, Drôme, Ardèche.
8h11 sur Inter, direction la Catalogne, avec encore une journée sur le fil.
À 24 heures d'une possible mise sous tutelle de la région par Madrid, le Parlement catalan doit se réunir aujourd'hui. Très divisé, les députés hésitent entre deux solutions. Mathieu de Taillac.
Déclaration d'indépendance ou élection régionale, mise sous tutelle de la Catalogne ou retour au dialogue. À Barcelone comme à Madrid, les politiques pèsent le pour et le contre des décisions drastiques que chacun menace d'exécuter dans les tout prochains jours. Car l'agenda institutionnel accélère le temps politique. Au Sénat espagnol, d'abord une commission cet après-midi, puis la séance plénière demain, doivent évaluer puis voter les mesures que souhaite prendre Mariano Rajoy pour contraindre les institutions catalanes à retrouver le cadre légal. Le gouvernement espagnol réclame notamment au Sénat de l'autoriser à destituer le président catalan, l'indépendantiste Carles Puigdemont, ainsi que l'ensemble de son gouvernement régional. Y a-t-il encore une manière d'éviter des mesures aussi fortes? Oui, fait savoir Madrid, si Puigdemont convoque des élections régionales et revient au cadre légal. L'option est étudiée à Barcelone et les indépendantistes les plus modérés poussent dans cette voie, mais les jusqu'au-boutistes demandent au contraire à Puigdemont de déclarer l'indépendance. Il en aura l'opportunité cet après-midi et demain à l'occasion de la séance plénière du Parlement catalan. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
Prenez garde si vous avez l'intention de prendre l'avion pour les États-Unis dans les prochains jours. À partir d'aujourd'hui, sécurité renforcée sur les vols outre-Atlantique, plus d'interrogatoires, de questionnaires et même de fouilles avant le décollage. On revient en France avec cette vraie fausse polémique bordelaise. D'étranges autocollants ont fait leur apparition dans les rues de la capitale girondine ces derniers jours. Parisiens, rentre chez toi, peut-on lire sur les murs. Un slogan qui fait le buzz, mais qui serait, selon ses organisateurs, une simple blague de pote. Une blague qui ne fait pas rire le maire de Bordeaux, d'autant que des graffitis d'un autre collectif ont aussi fleuri dans les quartiers populaires. Alain Juppé envisage même de saisir la justice.
Bordeaux est une ville accueillante et doit rester accueillante. J'ai demandé au procureur de la République de regarder s'il y a matière à poursuite judiciaire. Il y a eu quand même des violences ici. Il y a surtout une atteinte à l'image de la ville. J'ai bien conscience que c'est aussi un mouvement politicien. C'est, d'après la préfecture, l'ultra-gauche qui est à la manœuvre. C'est un tout petit groupuscule aussi. C'est peut-être un tort que de lui accorder tellement d'importance. Mais je veux en faire quand même aussi une question de principe. Je ne laisserai pas s'accréditer l'idée que Bordeaux se recroqueville dans ses frontières et va refuser. Il n'y a pas que des Parisiens qui s'installent d'ailleurs chez nous. Il y a des gens qui viennent de toute la région. Ils sont les bienvenus.
Alain Juppé, un incendie vraisemblablement volontaire ce matin, peu avant 4h du matin, dans l'enceinte de la brigade de gendarmerie de Mélan dans l'Isère. C'est ce que rapporte France Bleu Isère. Plusieurs véhicules ont été détruits et les façades de bâtiments voisins où sont logés les militaires et leurs familles ont été endommagé, il n'y a pas de blessés. Un mot de sport et des affaires. Première condamnation dans l'affaire du FIFA Gate, ce scandale de corruption qui secoue l'instance suprême du foot. Depuis 2 ans, un ex-responsable de la fédération guatémaltèque a été condamné à 8 mois de prison à New York pour avoir touché des pots de vin.
On termine avec la disparition de l'un des inventeurs du rock'n'roll.
Fats Domino est mort hier à l'âge de 89 ans dans sa ville natale de la Nouvelle-Orléans, l'une des 3 stars de l'histoire du rock'n'roll, à l'influence historique. Mathieu Culeron.
Fats Domino faisait partie de la Sainte Trinité des pionniers du rock'n'roll. À la fin des années 40, il pose les bases de cette musique, Mishka Assayas et Critic Rock.
C'était vraiment l'inventeur d'un son qui était celui de la Nouvelle-Orléans, qui a beaucoup influencé les débuts du rock'n'roll. Et puis c'était une des 3 stars noires du rock'n'roll avec Little Richard et Chuck Berry.
Fats Domino aura une influence déterminante sur la génération des années 50 d'Elvis, en passant par les Beatles.
Lady Madonna, c'est un pompage en bonne et due forme de Fats Domino. Enfin, c'est presque une copie conforme de ses tubes. C'est vraiment un des premiers à avoir eu des chansons mais ultra populaires au début du rock'n'roll qui ont été reprises dès le milieu des années 50 par des interprètes blancs. Le son des 45 tours de Fats Domino a été déterminant pour l'invention et la propagation du rock'n'roll dans le monde.
Fats Domino est mort hier dans la ville qu'il a vu naître. Avec sa disparition, c'est la page de garde de l'histoire du rock qui vient de se tourner.
The Fat Man, c'est là-dessus qu'on termine de Fats Domino mort hier à 89 ans pour un peu. Je vous inviterai presque à danser, Marc.
Restez dans le presque, si c'est possible, Sébastien Logeni. Oh, merci beaucoup. Sérieux. Très belle journée. À vous. Non, on a le droit de danser, mais pas avec vous.